RFI. RFI, grand reportage, Laurence Adou.
Dans le nord de la France, 1500 migrants vivent actuellement dans des squats sur des terrains vagues à Calais, dans l'espoir de passer clandestinement en Grande-Bretagne. Le 20 septembre dernier, un accord franco-britannique a été conclu, contenant entre autres une aide financière de 15 millions d'euros par le Royaume-Uni, avant tout pour sécuriser le port. Les dispositions de cet accord sont censées calmer l'atmosphère tendue qui règne à Calais. Bagarres entre migrants, assauts sur les camions en partance vers la Grande-Bretagne et manifestations anti-migrants organisées par l'extrême droite. Ce sont là les pics d'une tension latente, les pics subis par le plus grand nombre de concitoyens qui sont, eux, modérés. D'une part, la grande majorité de migrants qui fait tout pour passer inaperçu. De l'autre, tous ces Calaisiens qui refusent tout racisme. De plus en plus de concitoyens viennent d'ailleurs en aide aux migrants. Les migrants de Calais, l'Angleterre à tout prix. Un grand reportage de Christine Siebert. Christine que l'on retrouve pour en parler dans un quart d'heure. Voici son reportage.
Alors ici, bientôt, on va passer à gauche. Tu vas voir, il y a un pont. Et tu vas voir sous le pont, enfin là, il n'y a pas beaucoup de véhicules. Donc, on ne verra peut-être pas tous les migrants, pas beaucoup de migrants, mais sous le pont, il y a des migrants, parce que quand il y a des véhicules qui ralentissent, ils arrivent à sauter par dedans. Tu vois là-bas, regarde, sous le pont là-bas, tu les vois ?
Ouais.
Regarde, c'est hyper dangereux. Combien il y en a qui tombent ? Donc là, tout de suite, là, il y a le squat des Soudanais.
D'accord.
À ce niveau-là. Là, du coup, je ne sais pas trop où on va à cette heure-ci.
Brigitte Lips passe sa vie entre le Secours catholique, où elle est bénévole, et sa maison bleue, qui est juste à côté de la jungle, comme ils disent. La jungle, ce sont les bois et terrains vagues près de Calais, où squattent quelques 1500 migrants. C'est chez Brigitte que Samuel, Abil, Yasser et d'autres viennent chercher de l'eau et charger leur téléphone portable.
Alors, numéro 1... un mobile, un chargeur.
Brigitte est comme leur maman, disent-ils.
Okay.
Big mama.
Samuel Petros a 17 ans. Il a fui son pays, l'Érythrée, pour ne pas être obligé d'être soldat à vie.
Until you left, you are being military.
Toute ta vie, tu dois rester à l'armée. En Érythrée, tu n'as pas le choix. Je préfère être libre. J'ai envie d'étudier. Je veux devenir médecin. C'est mon but. C'est ce que je veux.
I wish.
Pour atteindre son objectif, Samuel Petros a fait des milliers de kilomètres, à pied, en train, en traversant clandestinement plusieurs frontières.
First, you are coming from Eritrea. We are crossing the border of Eritrea to Sudan.
En venant d'Érythrée, nous avons d'abord passé la frontière pour aller au Soudan. Après, nous avons traversé le désert du Sahara. C'est très difficile. Tu y joues ta vie. Il n'y a aucun arbre. Il n'y a que le soleil. Tu te brûles les pieds. Tu as très soif. Dans le désert du Sahara, tu as deux possibilités. Ou bien tu meurs, ou bien tu survis.
À deux pas de chez Brigitte se trouve la jungle des Afghans. C'est un petit bois parsemé de tentes. Quelques jeunes hommes font cuire des galettes de pain sur un feu de camp. Abil Khan a 22 ans.
We come from Asia, from Afghanistan. They bombed my family because
nous venons d'Asie, d'Afghanistan. Ils ont bombardé ma famille lors des combats entre les talibans et les soldats nord-américains et britanniques. Et maintenant, on me dit, pourquoi tu es là ? Et ils savent très bien pourquoi je suis ici. Parce qu'ils ont détruit ma maison et ma famille. Pourquoi ils parlent des droits de l'homme ? Ce n'est pas pour nous. La situation ici est très dure. Juste avant mon arrivée ici, il y avait une bagarre entre Érythréens et Soudanais. C'est pour ça que la police nous tape dessus maintenant et nous attaque au gaz lacrymogène. Et les gens à Calais nous prennent pour des criminels. Dans le magasin Carrefour, un type a volé quelque chose. Et c'est nous qui payons pour ça. Ils ne nous laissent plus entrer à Carrefour. Ils pensent que nous sommes tous des criminels. Notre crime, c'est que nous essayons d'entrer illégalement en Angleterre, mais nous le faisons parce que nous n'avons pas le choix.
Abil Khan essaye donc chaque soir ou presque de se faufiler dans un camion pour passer en Grande-Bretagne.
Ce n'est pas agréable pour le chauffeur routier si quelqu'un se cache dans son camion. Je sais ça. Si je pouvais acheter un ticket de ferry pour aller en Angleterre, je le ferais. Je n'aime pas du tout l'idée que quelqu'un puisse avoir des problèmes avec la police à cause de moi. Et maintenant, lorsqu'il y a des bouchons sur l'autoroute, il y a parfois des groupes de 10 à 15 personnes qui sautent sur les camions. Ce n'est pas bien. Ça ne marche pas comme ça. Mais certains se comportent comme des fous. À cause d'eux, on est dans une mauvaise situation vis-à-vis de la police.
Le port de Calais, tout près d'ici. Toutes les 45 minutes, un ferry part en direction de Douvres en Angleterre. Le parking destiné aux camions est entouré par des hauts grillages. Andrzej, Darek, Aaron et Sébastien, des chauffeurs polonais, se sont regroupés autour d'un réchaud posé sur la plateforme arrière d'un camion et font, eux, cuire des œufs sur le plat.
C'est un problème pour nous, oui. Les migrants nous posent problème. J'ai dû payer 600 livres parce qu'ils en ont trouvé un dans mon camion. À chaque fois que je suis sur ce parking, il y en a. La police vient toutes les nuits pour les arrêter. Hier, j'ai trouvé 2 migrants dans mon camion. Quand j'ai l'impression que quelqu'un est monté derrière, je le dis au service de sécurité du port et ils l'attrapent.
La maire UMP de Calais, Natacha Bouchard, dit vouloir à tout prix dissuader les migrants de leur projet de rejoindre l'Angleterre. L'un des volets du récent accord franco-britannique concerne la communication des Anglais.
Le gouvernement britannique devrait envoyer des messages très forts en direction justement de cette population des migrants pour leur dire que ils ne souhaitent pas que les migrants passent ensuite qu'ils les informent que leur territoire n'est pas l'Eldorado que peuvent penser ces pauvres personnes qui arrivent de pays très différents. Jusqu'alors, ça n'avait jamais été fait. Il y a ensuite une enveloppe financière qui est prévue pour la sécurisation du port, puisque le port est un outil de développement économique. Et si le port de Calais faiblit, c'est aussi le port de Douvres qui faiblit, puisque la ligne Calais-Douvres, leur sort est bien lié. Et ensuite, c'est la prise en charge d'une partie du fonctionnement des plus vulnérables. J'avais demandé à ce qu'il y ait un lieu d'accueil donc de jour à Calais avec des services humanitaires parce que nous ne pouvons plus donc accepter nous cette situation intra-urbaine.
Mais croit-elle vraiment l'efficacité de l'arsenal de dissuasion négocié avec les Britanniques ? À la question de savoir ce que feront les usagers du centre d'accueil de jour lorsque ce dernier ferme ses portes à 18 ou 19 heures, Natacha Bouchard répond.
Il faut savoir que les migrants donc qui arrivent à Calais sont des personnes qui ne demandent pas l'asile en France, ou très peu. Par conséquent, ces personnes essaient de passer la nuit. Elles se reposent la journée et leur objectif, c'est de passer. Voilà leur objectif.
Passeur d'hospitalité, c'est le joli nom du blog animé par Philippe Vanson. Sur ce blog, il raconte et analyse la vie des migrants à Calais. Il réfléchit aussi sur la politique migratoire en Europe. Si le nombre de migrants à Calais a quasiment triplé en un an, il y a, selon Philippe Vanson, une raison simple à ça.
Jusqu'à l'année dernière, en fait, les gardes-côtes italiens, quand ils interceptaient des bateaux en mer qui venaient vers les côtes italiennes, les refoulaient vers la Libye, ce qui est contraire au droit international. L'Italie a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme. Du coup, comme les gens sont plus interceptés en mer, ils arrivent en Italie et une partie d'entre eux arrive ici, donc leur nombre augmente.
En même temps que leur nombre augmente, les migrants changent de comportement, constate Philippe Vanson.
Donc on a eu toute la série des décès qu'on a connus en novembre, décembre, jusqu'à peu près au mois de mai, y compris des gens qui essayaient d'entrer dans le port en plein hiver à la nage ou des choses comme ça, quoi. Et puis depuis qu'ils sont suffisamment nombreux, ils n'ont pas spécialement envie de se tuer et de se casser le cou. Donc leur tactique, c'est beaucoup plus d'arriver en nombre, de forcer l'entrée des parkings, de tenir la sécurité du port et la police à distance, d'entourer les camions et du coup... Dans l'espoir que quelques-uns vont pouvoir passer inaperçus et se glisser dans les camions ou sous les camions.
Philippe Vanson est préoccupé. Depuis peu, des propos racistes d'une rare violence se font entendre à Calais. Les anti-migrants ont également leur page Facebook intitulée « Sauvons Calais ».
Effectivement, c'est depuis l'ouverture de la page Facebook de Sauvons Calais qu'il y a vraiment quelque chose qui se cristallise, avec des propos violents, mais du coup avec des actes violents aussi, et avec une tolérance des autorités qui est visiblement... on a quand même eu la scène complètement inouïe au mois de février dernier, de gens du collectif Sauvons Calais qui débarquent devant un squat, qui caillassent sa façade pendant une semaine, qui jettent des cocktails Molotov, qui essayent d'entrer de force la nuit, la police étant présente, et les policiers répondant quand on les interpelle, non, on peut pas disperser la troupement parce qu'il n'y a pas le rassemblement parce qu'il n'y a pas de trouble à l'ordre public. Alors que on a des gens qui vocifèrent entre autres des menaces de viol et de mort, donc voilà.
Effectivement, en ouvrant le micro dans les rues de Calais, on tombe parfois sur des propos extrêmement violents.
C'est complet de migrants, on commence à en avoir marre et il faut tous ouvrir les ferries. Puis tous ces foutent en Angleterre, ils veulent en Angleterre, qu'ils vont en Angleterre. Et je pense que le président, s'il dit 50 euros par tête, on sort le fusil puis on les flingue tous.
Voilà comme l'incitation à la haine raciale et à la violence, qui est un délit en France, est banalisée. Par ailleurs, les Calaisiens expriment toute une panoplie de craintes.
Ouais, ça devient inquiétant. J'ai vu à la télé qu'ils ont attaqué des camions et des gens de pompiers, je crois.
Ouais, ça c'est la télé, mais votre vécu personnel.
Moi, ça n'est rien passé.
Par rapport aux migrants, c'est une situation pas facile parce que on a même des investisseurs qui ne veulent plus investir sur Calais parce que dès qu'ils ouvrent leur poste de télévision, ils voient la situation. Donc, on était déjà quand même bien sinistrés au niveau de l'emploi et tout ça. Donc, ça met pas Calais en avant, quoi. Hein ? Là, ils sont pas du tout dangereux. Hein. Ils sont même polis quand on les rencontre.
Sans être raciste, c'est vrai qu'il y en a de plus en plus. Et puis, on se sent pas vraiment chez nous. Je suis pas rassurée, quoi, en fait. Quand je repars chez moi, je suis pas rassurée. Bon, quand je vois quand même qu'il y a des forces de l'ordre qui leur tapent dessus, moi, je suis pas pour. Moi, je suis pas contre les gens qui les aident. Personnellement, moi, je suis pas contre. Parce que, de toute façon, moi, je serais dans leur cas. Je sais pas comment je réagirais. Je suis pas contre pour les gens qui les aident.
Vous auriez parfois envie de les aider ?
Oui. Oui, si je pouvais faire partie d'une association, je le ferais.
Il est 18h. Sur un terrain vague près de la gare, l'association Salam commence la distribution du repas du soir, des légumes et du riz au curry, et des pommes et du raisin comme dessert. Une longue file d'attente s'est formée.
Madame Powell.
Certains essayent de doubler les autres.
Attention là.
Une bénévole, Jeanne Poels, une petite dame aux cheveux blancs, fait la discipline.
Et je suis la doyenne, parce que oui. J'ai 88 ans et demi. Alors oui, c'est plus une mamie qui parle qu'autre chose. Et ça y fait énormément. Ça va faire 10 ans que je fais ça. Et
ouais,
puis,
bien
alors,
sûr,
donc,
vous êtes connue.
Je suis connue, puis bon. Si on vient là, c'est parce qu'on a envie de faire quelque chose de bien.
À Calais, il y a quand même beaucoup de gens qui aident aussi, non?
Ah oui, quand même. Et de plus en plus. Et c'est encore plus courant depuis à peu près un mois ou deux.
Ah oui.
Depuis qu'ils sont encore un peu plus nombreux.
Oui,
on voit qu'il y a une solidarité quand même.
Ça, c'est encourageant, parce qu'on voit d'un autre côté qu'il y a des collectifs Calais, tout ça.
Alors, c'est inadmissible, quoi.
Les propos qu'ils tiennent.
Les propos qu'ils tiennent, et puis enfin, un rassemblement, c'est horrible, quoi. C'est pas possible, c'est la haine. Faire le salut hitlérien, un truc comme ça. Vous vous rendez compte, comme nous, des personnes comme nous qui avons vécu la guerre et tout ça, puis voir des jeunes comme ça faire ça, c'est horrible, quoi.
Ça y est, les grandes casseroles sont toutes vides. Certains n'ont pas pu manger. Parmi eux, Abkhan, un jeune Pakistanais. Il se tient là, indécis, un sac en plastique vert dans la main.
On a dû quitter notre pays parce que notre vie y est menacée. Mon père et mon frère ont été tués par une bombe. Tout est fini, il ne reste que moi. J'ai traversé l'Iran, la Syrie, la Grèce et l'Italie pour arriver en France. Ça m'a pris 5 ou 6 mois. Je n'ai pas de papier, je n'ai rien. Je ne sais pas où aller. J'ai fait des études de sciences politiques, mais bon, que faire maintenant? J'ai demandé l'asile politique en France. Ils m'ont dit qu'il faut 3-4 mois pour avoir une réponse et que je dois me débrouiller pour dormir quelque part. Ils ne peuvent pas m'aider. Ils ont pris mes empreintes digitales et puis plus rien. Ils disent, et maintenant, sortez. Donc, me voilà. Il n'y a rien d'autre que mon sac en plastique et moi.
Just one bag and me.
Entre-temps, devant la maison bleue de Brigitte, une autre file d'attente s'est formée, celle pour des téléphones portables. La discussion revient sur les mesures annoncées pour dissuader les migrants de passer en Grande-Bretagne. Yasser, un jeune Soudanais, affirme que rien ne le retiendra.
Je veux absolument aller en Angleterre. Je ferai tout pour y aller. Vous ne pouvez pas m'aider ?
Non.
Non ? Vous ne pouvez pas ?
Tous ont de la famille ou des amis en Grande-Bretagne qui sont prêts à les aider à s'installer. Et tous maîtrisent un peu l'anglais. Un atout pour démarrer cette nouvelle vie. On retrouve Samuel Petros venu chercher son portable chargé. Lui aussi affirme vouloir tout essayer pour aller en Grande-Bretagne.
Il s'agit d'avoir un coup de chance. Si tu as de la chance, tu arrives en Angleterre. Si tu n'as pas de chance, tu restes à Calais. Mais un jour, je réussirai. Ça sera ma victoire.
Merci à tous les participants. Merci à tous ceux qui ont bien voulu témoigner. Les migrants de Calais, l'Angleterre à tout prix. Un reportage de Christine Siebert. Réalisation Marc Minatel.
Christine Siebert, bonjour.
Bonjour Laurent.
Vous êtes l'auteur de ce grand reportage. Alors oui, environ 1500 migrants vivent donc actuellement à Calais. Hein. Là, nous sommes dans le nord de la France. Ils sont beaucoup plus nombreux qu'il y a encore un an.
Oui, leur nombre a triplé même en un an. En été 2013, ils étaient environ 500. Mmh. Et aujourd'hui, donc 1500. Et parfois, on entend même le chiffre de 1800. Évidemment, impossible de connaître un chiffre précis.
Alors, une question toute simple. Que faire là, maintenant, à l'heure où nous parlons? Quelle solution peut-on proposer?
Oui, c'est tout sauf simple. La maire Natacha Bouchard, elle souhaite une meilleure coopération européenne et elle veut des centres d'accueil européens tout au long du parcours des migrants qui est parfois très très lent. Alors ces centres seraient là pour les informer, pour les aider à faire les bons choix et évidemment pour leur fournir de l'aide humanitaire. Il faudrait d'abord que les migrants puissent faire valoir leur droit d'asile. Quelqu'un qui est menacé dans son pays est en droit d'attendre du pays d'accueil qu'il y soit traité dignement. Or, comme le raconte Abkhan, le jeune Pakistanais qu'on entend dans le reportage, on a pris ses empreintes digitales et on lui a dit de se débrouiller entre-temps. Hein. Et il y a ce militant associatif Philippe Vanson qui anime le blog Passeur d'Hospitalité, lui propose qu'au lieu de payer des CRS, on paye des concierges sociaux qui eux aussi informeraient les migrants et sur leurs droits et feraient en sorte que les migrants aient une vie décente dès leur arrivée.
Et que prévoit l'accord franco-britannique?
Alors en plus des campagnes d'information pour dissuader les migrants et de la sécurisation du port, l'accord prévoit une coopération policière renforcée contre les filières de passeurs et puis les questions aussi là d'une réponse aux urgences sanitaires des migrants.
Alors en attendant, il y a le clivage hein, qui se creuse à Calais entre soutien de migrants et anti-migrants. On l'entend bien dans votre reportage.
Oui, et j'ai même entendu que les anti-migrants agressent ouvertement les soutiens des migrants et essayent de les intimider. Par exemple, ils les suivent en voiture. Et vous l'avez entendu aussi tout à l'heure dans le reportage, il y a ce collectif anti-migrants Sauvons Calais qui a organisé une manifestation le 7 septembre dernier. Il y avait environ entre 150 et 300 personnes, dont de nombreux représentants de l'extrême droite. Et certains ont tenu des propos très violents. Certains ont fait des saluts nazis. Résultat, le procureur de la République a ouvert une enquête sur ce collectif, Sauvons Calais, après avoir reçu une douzaine de plaintes et une de ces plaintes vient de la section socialiste Calais et le député Yann Capet, qui est à la tête de la section, dit que sur la page Facebook de Sauvons Calais, il a eu des menaces de mort contre lui.
Alors, c'est pas la seule affaire hein, qui est actuellement entre les mains de la justice.
Absolument. Dans la nuit du 19 au 20 septembre, quatre jeunes ont lancé des cocktails molotov sur un squat de migrants. Apparemment, ces jeunes ne font pas partie d'un groupe d'extrême droite, mais auraient cherché à se venger d'un vol de téléphone portable. Mmh. Bon, il y a une justice en France qui est là pour s'occuper des victimes de vol, mais au lieu de laisser la justice faire son travail, ces jeunes ont décidé de mettre en péril la vie d'autrui. Leur cocktail Molotov aurait pu mettre le feu hein, à ce squat et aurait pu tuer des personnes qui s'y trouvaient. Le procès concernant cette affaire aura lieu le 13 octobre et ces jeunes risquent 10 ans de prison.
Ce sera le mot de la fin, Christine Siebert, merci beaucoup. Grand reportage à écouter sur
RFI.fr.
Bonne journée.